Texte Le Corps, un artiste multi-talentueux dont on pourra apprécier justement le talent au Centre d'art Diane Dufresne, qui présente l'exposition Paul Texte Le Corps, fils de la liberté. Et j'en parle avec plaisir avec François Renaud, qui est chef de section art visuel et conservateur au Centre d'art Diane Dufresne. Bonjour, Monsieur Renaud.
Bonjour, Mme Denis. J'ai le plaisir d'être le chargé de projet de cette exposition. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir eu la chance jusqu'à présent de se plonger dans l'univers de Paul Texte Le Corps. C'est vraiment un personnage plus grand que nature. Vous venez de faire une très belle entrée en matière avec le Texte Le Corps, auteur, compositeur, interprète que les gens connaissent. D'autres ont connu aussi l'artiste peintre. Je dirais que dans le parcours de sa vie, c'est de cette manière-là que le commissaire, M. Robert Bernier, a orienté l'exposition. Pour vous donner, je dois vous faire saliver pour avoir envie de venir voir l'exposition.
Mais certainement,
Nous avons recréé grandeur nature, le drapeau québécois, avec différents axes. Donc, l'exposition s'articule autour de quatre axes. Donc, on arrive dans la salle 1 avec la tradition des beaux-arts. Tex a fait ses beaux-arts à l'École des beaux-arts de Montréal à la fin des années 50. Mm-hmm. Il y a aussi la chronique, donc, il a au travers de ses peintures, de ses dessins. Il a été un peu le chroniqueur. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on parle de chroniqueur, c'est que la personne observe, regarde la situation et rapporte la réalité telle qu'il l'aperçoit, sans jugement de valeur, mais il est le témoin de ce qu'il a sous les yeux. Il y a aussi des scènes de genre, on parle d'une scène de genre où on retrouve des gens en action en train de s'adonner souvent à des activités tout à fait quotidiennes, mais ce qui est fantastique dans le travail de Texte Le Corps, c'est l'amour qu'il portait au peuple québécois, et c'est comme si au travers des petits gestes quotidiens, des scènes de taverne, des rencontres sur le porche d'une maison, il a magnifié ce que nous sommes culturellement et collectivement. Alors, on sent vraiment l'amour qu'il avait profondément pour le peuple québécois.
Est-ce que c'est cet amour du peuple québécois qui vous a donné envie de présenter cette exposition dans ce drapeau du Québec en trois dimensions?
Oui, parce que c'est un peu dans cet esprit que M. Bernier, le commissaire, a voulu présenter le travail de Texte. Comme on le sait, il était un grand patriote, très, très attaché à la culture québécoise, à la langue française et à la défense aussi des droits. C'est un très grand nationaliste qui marchait, comme beaucoup de gens de cette génération, dans l'espoir de la naissance d'un pays qui viendrait s'inscrire dans le concert des nations. Et au travers, justement, de son œuvre, on a parlé de la chronique, des scènes de genre, de l'allégorie. Alors, quand on arrive dans la section des allégories, il s'est beaucoup inspiré des contes et légendes du Québec. Et ce qui est fantastique, c'est que l'exposition que les gens vont découvrir à compter de demain, nous avons fait venir des œuvres des quatre coins du Québec. J'ai fait venir un tableau de Rimouski qui mesure 6 pieds par 10 pieds et demi de largeur.
Ah, oui.
Alors, les gens vont découvrir des œuvres des années 60, donc au tout début de sa sortie d'École des beaux-arts jusqu'à la toute fin, au moment de son décès. Le texte nous a quittés malheureusement en 2017. Alors vraiment, là, c'est plus d'un survol de 60 ans de carrière. Et ce qui est fantastique, c'est que nous avons des œuvres de toutes les périodes. Alors on voit qu'au début de sa carrière, il était très inspiré par la manière noire, ce qu'on appelle aussi la grisaille en peinture, où l'artiste va mettre un fond noir sur son tableau et il vient rajouter la couleur, ce qui vient créer une densité au niveau de la recherche, au niveau des effets de couleur. Et graduellement, lorsqu'il découvre l'acrylique, la peinture à l'acrylique, à la fin des années 70, début des années 80, ben là, c'est un tout autre texte qui se révèle à nous avec la malléabilité de la matière, du pigment. Comme vous le savez, l'acrylique est un matériau qui se maîtrise beaucoup mieux que l'huile. L'huile prend du temps pour le séchage et tout ça, tandis que l'acrylique est tout à son opposé, ça sèche rapidement.
Ah oui,
on fonctionne avec de l'eau et c'est magnifique. Oui, parce que lorsque vous peignez à l'huile, vous devez toujours avoir la térébenthine, vous devez garder du temps de séchage. Et là, on arrive au texte qui a été à la fois pilote de brousse, qui a eu la liberté d'aller découvrir les différents peuples autochtones du Québec. Il y a de superbes exemples, entre autres, de ces passages dans la Pidungava, où les gens vont découvrir des tableaux, des dessins qui ont été faits sur le motif. Donc, il a peint sur place. On voit des enfants qui ont été croqués sur le vif, des chasseurs qui sont sur la mer en train de se préparer à aller faire la chasse selon les saisons. Vraiment, c'est une exposition qui est très riche et qui est agrémentée aussi de beaucoup d'artefacts. Ce qui est intéressant, c'est que le tableau, les quatre tableaux qui représentent, comme je vous le disais plus tôt, l'image en 3D d'un drapeau québécois, ben, ce qu'on a fait pour illustrer les fleurs de lys du drapeau, on a créé quatre losanges qui sont surmontés sur leur tête de quatre immenses fleurs de lys en forme d'oiseau qui ont été réalisées grâce à la collaboration que nous avons eue du grand couturier et designer Michel Robida. Oui. On connaît Michel Robida pour ses créations qu'il fait pour l'émission de Zélie Snyder. Et c'est un très grand créateur avec lequel on a eu le plaisir de présenter une exposition il y a quelques années. Et lorsqu'on lui a demandé de participer à l'exposition, ben avec grand plaisir, il s'est joint à l'équipe. Alors les gens vont être étonnés, vraiment. Si j'avais à qualifier l'impression qu'on a en raison de la quantité phénoménale de tableaux qui sont présentés
dans
cette exposition, il y en a au moins 155. Il y a 155 œuvres et dessins. C'est ni plus ni moins une mise en abîme. Les gens vont entrer, mais vraiment plongés, vont être invités à plonger dans l'univers créatif de Paul Teixeira. Et il y a une section aussi consacrée à des archives. Son père a travaillé parce qu'il était d'origine française. Il venait de la ville de Lorient en France. Il a servi sous les armes lors de la Première Guerre mondiale. Et entre autres, Henri Paul, ce qu'il avait fait, crime de lèse-majesté, il avait sculpté la crosse de son fusil tandis qu'il était en attente dans les tranchées, ce qui était vraiment un acte d'insubordination à l'époque. Et il avait rebaptisé son fusil la Rosalie. Alors donc, malheureusement, nous n'avons pas pu avoir l'arme en question, mais on a des reproductions et on a la chance d'avoir un superbe portrait que Tex avait peint de son père. Et donc, ça nous a permis d'avoir une très belle collaboration du Musée royal du 22e régiment de la Citadelle de Québec qui nous ont prêté des artefacts. On retrouve une partie d'un costume d'un soldat de la guerre, de la Première Guerre mondiale, et des artefacts, des découpures de presse. Lorsqu'on se promène dans les corridors qui représente un peu la croix du drapeau québécois, ben on est plongé parmi des artefacts qui ont été pigés dans des scrapbooks, je m'excuse de l'anglicisme, mais dans ces colligages de notes d'archives. Et ce qui est fantastique, entre autres, c'est que Tex a fait partie d'un mouvement qui s'appelle le mouvement de la Nord-Étude, qui est composé d'artistes du Québec, donc entre autres Saint-Gilles Côté, il y a Jacques Hébert, il y a Marcel Fecteau. Alors, et on a un exemple de ces peintres pour lesquels Tex faisait partie de cette association là, qui malheureusement n'existe plus, mais à l'époque, ils avaient comme mission de protéger l'environnement et le fruit de leurs activités servait justement à financer des projets de protection de la faune et de la flore. Et on a aussi quelques exemples des peintres qui ont inspiré Tex. Et ce qui est fantastique quand on lit sur la vie et l'œuvre de Teixeira, il avait un immense respect pour les anciens, pour les peintres qui étaient passés avant lui. Parce qu'on le sait, Tex était quand même en porte-à-faux. Il n'était pas près du mouvement des automatistes, ni de Prisme de Jus avec Alfred Pellan. Donc, il était très proche de la tradition Beaux-Arts. Donc, on a des exemples d'œuvres, entre autres, un superbe tableau, un petit tableau de Jean-Paul Lemieux, de Francesco Iacurto. Et puis, les gens vont vraiment découvrir tout ce qui a été à la source même de l'inspiration, de la démarche artistique de Teixeira. On connaît souvent sa vie comme auteur, compositeur, interprète, humoriste. Souvenez-vous les années où il a sévi sur les ondes de CKAC piégeant les gens.
Les insolences de la radio.
Alors, c'était un moment, parce qu'au fond, quand on y pense, Tex a fait partie de nos vies, peu importe l'âge que nous avons, pendant plus de 60 ans. Donc, il arrive sur la scène, surtout des chansonniers, au début des années 60, comme auteur, compositeur, interprète. Ça s'est poursuivi, je dirais, jusqu'à la fin des années 70. Et là, au début des années 80, il y a eu comme un tournant, et il s'est consacré davantage, autant à ses activités dans le cadre du Festival de l'humour, mais surtout à titre de son travail de peintre, de dessinateur.
Et monsieur Renaud, est-ce qu'il va avoir de la musique dans cette exposition-là et des extraits aussi des Insolences d'un téléphone?
Non, malheureusement, je peux ouvrir une petite parenthèse. Il est très compliqué d'avoir accès aux archives.
Je ne sais
pas, c'est sûr que dans le passé, ce que j'ai eu la chance de pouvoir récupérer, qui sera diffusé, on a une très belle collaboration de la part de M. Alain Stanquet, que tout le monde connaît. Mm-hmm. Alors, M. Stanquet avait enregistré une émission au début des années 90, qui était Teixeira par Teixeira. Donc, c'est une entrevue de 27 minutes où Tex s'interviewe lui-même. Alors, on a droit à l'artiste et au peintre qui s'interviewe, et entre autres, la collaboration de de Média TV qui nous a permis de présenter le documentaire « L'espace d'une chanson » Saint Scholastique Blues qui avait été présenté en 2015, où le texte nous raconte les origines de la chanson Saint Scholastique Blues qu'il avait écrit en rendant hommage aux expropriés de Mirabel. Comme vous le savez, avec le drame de l'arrivée de l'aéroport, beaucoup de gens avaient été expropriés de leur terre.
Tout alors, ça pour un éléphant blanc.
Tout à fait, qui, entre nous, est disparu. Alors, on a effacé toute trace. Il reste à peine quelques hangars, et puis ça a occupé la scène dans les années 70, et ça a été la source de beaucoup de drames familiaux, la façon dont les choses se sont déroulées. Alors, texte très engagé au niveau de la société québécoise, s'est indigné, a écrit cette chanson. Alors, les gens vont pouvoir avoir le plaisir de revoir ce documentaire. Et en plus, le commissaire, M. Bernier, a eu le privilège d'enregistrer plusieurs entrevues dans son atelier à Terrebonne à l'époque, et j'ai eu même le plaisir d'aller les rencontrer aussi. Autant pour moi que tous ceux qui ont connu Texecor, je pense que les gens vont être très touchés de voir comment on a recréé la puissance, la force de ces tableaux. C'était quelqu'un qui a décrit justement la magnificence des paysages. C'est un excellent coloriste. Et vous allez voir les points de vue, la manière dont il peignait. C'est vraiment un style unique. C'est sûr qu'on est un peu en porte-à-faux à ce qui se passe actuellement dans le milieu de l'art. Les gens ont souvent boudé l'art figuratif en l'associant à un art qui est populaire. Mais ce qui est fantastique, c'est que pour Tex, c'était clair que c'était de l'art populaire. Au travers du choix des sujets qu'il traitait, il voulait rendre témoignage de ce qu'était l'évolution de la société québécoise au travers de son histoire. On a entre autres un superbe tableau qui fait référence au soulèvement des patriotes de 1837-1838. Et entre autres, ce qui est fantastique, c'est que il ne se contentait pas de reproduire des scènes évoquant le passé. Il y avait toute une recherche de préparation qu'il faisait. Quelqu'un, entre autres, avait fait la remarque à Tex, lorsque vous avez représenté l'église de Saint-Eustache, vous avez mal positionné le cimetière dans le tableau. Il avait répondu non. Je l'ai placé là où il était avant qu'on le déplace. Alors donc, il y avait vraiment un souci du détail, une recherche. Je vous dirais qu'il a fait preuve un peu du travail de ce qu'aurait pu faire un ethnologue. Et il le disait, entre autres, quand j'arrive dans un village, la première chose que je fais, je demande toujours où sont les vieux. Alors, il voulait justement établir un contact direct avec les gens sur place pour pouvoir s'enrichir des historiettes et puis des histoires des lieux où il passait. Et ce qui est intéressant, et c'est peut-être un filon à retenir pour ceux qui visiteront l'exposition, quand on regarde l'évolution du travail de Tex au niveau de son rendu, au niveau du dessin, au tout départ, on est dans la caricature. Donc, les traits sont exagérés au niveau des personnages qui sont décrits. Et graduellement, on dépasse le stade de la caricature. Et là, on voit l'investissement au niveau des références historiques, son souci du détail pour remémorer le moment où il était sur place, lorsque souvent il peignait sur le motif par le biais des esquisses ou des gouaches qu'il faisait, là, des pochades. Et puis quand on revoit le tableau, il y a des tableaux là, iconiques là, qu'on connaît. Là, je défie qui que ce soit d'aller faire un tour présentement sur Google pour revoir des tableaux de Tex de Cor. La masse critique d'œuvres que nous présentons, les 155 tableaux qui présentent un panorama de l'ensemble de la carrière des 60 années, de l'artiste peintre et du dessinateur, c'est à couper le souffle. Vraiment, là.
Ben, François Renaud, on a aussi le souffle coupé à force de vous entendre. Est-ce que vous avez eu la chance de le rencontrer, Tex de Cor?
Oui, je l'ai rencontré parce que malheureusement, vous savez que la vie est pleine de rencontres et de hasards. L'exposition, au départ, devait être présentée au Centre d'art Diane Dufresne en 2016. Malheureusement, pour des raisons qui étaient hors de notre contrôle, nous avons été obligés de remettre ce projet-là. Et j'avais dit à M. Lecor, pour avoir été le rencontrer à 4 reprises dans son atelier, « Quoi qu'il arrive, nous ferons l'exposition. » Alors, je vous cacherai pas que ça me fait un pincement au cœur lorsque j'ai appris son départ, parce qu'il était venu visiter le centre d'art, le chantier, lorsqu'on était sur le point de terminer les installations au moment de la construction. Alors, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je dirais que par la force du témoignage qui est rendu ici dans l'exposition Paul Tex de Cor, Fils de la liberté, je pense que son esprit sera parmi nous jusqu'au 26 septembre prochain, parce que la force qui se dégage de l'ensemble de ses œuvres, Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une véritable mise en abîme. Les gens vont être accompagnés et je dirais que chaque tableau, chaque dessin est une fenêtre ouverte sur ce que nous sommes collectivement et sur ce que nous avons été. Et c'est pour ça qu'une exposition, les gens m'ont posé la question au cours des dernières semaines, mais pourquoi faire une expo sur Texlecor? Ben, je disais, elle est importante. Elle est majeure, cette exposition. C'est la toute première fois. C'est sûr que Tex a eu droit à des rétrospectives dans les galeries qui l'ont représenté, très bien représenté au cours de sa carrière.
Et François Renaud, je vais être obligé de vous arrêter. Oui. Vous êtes très, très inspirant et vous nous donnez envie de découvrir cette exposition. Je vais en reparler un peu plus tard au cours de l'émission pour donner tous les détails. Merci.